France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Marie-Marine et la bise à Julia. Au passage, à demain. Allons-y, c'est le 18-20 de France Inter qui s'ouvre. On est ensemble pendant 2 heures. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, l'offensive américaine contre TikTok.
Oui, le réseau social doit rompre ses liens avec la Chine ou bien quitter les États-Unis. Voilà en substance que dit la proposition de loi adoptée tout à l'heure par la Chambre des représentants. On part aux États-Unis au début de ce journal.
Et les autres titres, Céline?
Un salarié en CDI. Mieux formé qu'auparavant, adepte du télétravail. Voilà le portrait robot du français ou de la française au travail. Selon un rapport de l'INSEE que l'on va détailler tout à l'heure. On avait le sentiment qu'il était immortel. L'hommage de la gérante de la maison de Gaulle a colombé les deux églises après la mort de Philippe de Gaulle à l'âge de 102 ans. On va parler aussi de cet homme soupçonné d'avoir tué sa compagne pour vivre une relation avec une autre femme rencontrée sur Internet. Sauf que celle-ci n'existait pas, c'était une escroquerie. Précision à venir. Les particules fines dangereuses pour la santé. Ça, on le savait, mais une étude révèle qu'elles sont nocives, même lorsque l'exposition est de courte durée.
Et on en parle avec l'invité de ce journal, c'est Tony Renucci, le directeur de l'association Respire.
L'actualité, c'est aussi le cinéma avec la rencontre à l'affiche de Blanche Gardin et de Michel Houellebecq, critique à suivre. Et puis, il va falloir respecter des critères très précis. Pour pouvoir candidater, on va découvrir le processus de sélection des porte-drapeaux français pour les prochains Jeux Olympiques.
Au sommaire du 18-20, ce soir, on va parler immobilier en Europe. Chez nous, la crise est profonde. Chez nos voisins aussi, cette crise s'installe. Nous irons notamment en Allemagne et en Italie. Vous comprendrez pourquoi. Le reportage nous emmène au Brésil, aux prises avec une épidémie de dingue impressionnante. Vous saurez pourquoi un baiser vaut de la prison en Russie. Le cinéma en VO, ce sont des chroniques de Téhéran. Louise Baudet, dans Le Monde à 18h50, nous emmène, nous explique la Bosnie dans l'Union européenne. En deuxième heure du 18-20, c'est le téléphone sonne avec, après le débat sur l'Ukraine au Parlement, avant la déclaration du président de la République. Vous en pensez quoi, vous, de cet accord sécurité, de notre rôle vis-à-vis de l'Ukraine, de notre attitude aussi vis-à-vis des Russes? C'est là-dessus qu'on vous attend.
France Inter.
Plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et un chiffre d'affaires estimé à plus de 12 milliards de dollars.
Et on pourrait en donner d'autres, hein, des chiffres qui montrent la puissance de TikTok où les adolescents du monde entier visionnent chaque minute 167 millions de vidéos. Le réseau social en pleine expansion est-il à la botte de Pékin? Les élus américains s'inquiètent du risque d'espionnage et de manipulation puisque TikTok appartient à une société chinoise, ByteDance, et la Chambre des représentants vient d'adopter une proposition de loi. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Céline.
Vous êtes à New York pour France Inter. TikTok doit rompre ses liens avec la Chine sous peine d'être interdit aux États-Unis.
Oui, absolument. Et Biden aurait 6 mois pour se plier à la volonté des Américains en vertu du texte voté ce matin lors d'un rare moment d'unité à la Chambre des représentants où on est plutôt habituellement à couteau tiré. Il fallait TikTok et l'ombre de la Chine pour mettre tout le monde d'accord. 352 voix pour, 65 contre et une surprise totale pour les dirigeants de TikTok qui estimaient, selon le Wall Street Journal, pouvoir profiter d'un répit dans leur bras de fer avec Washington. Les États-Unis, vous savez, depuis des années, accusent le réseau de collecter les données personnelles de ses utilisateurs, 170 millions d'Américains, tout de même en particulier chez les moins de 30 ans, et de les manipuler à travers les contenus diffusés.
Alors ce vote, Loïc, ne veut pas dire que TikTok va être interdit demain sur le sol américain.
Non, alors l'application clairement n'a jamais été autant en danger sur le sol américain, mais pour autant, sa disparition est loin d'être actée. Joe Biden lui est prêt à signer le texte, pas de problème donc du côté de la Maison Blanche, mais ça pourrait coincer au Sénat, où certains élus ont exprimé leur opposition à la disparition de TikTok. Enfin, et c'est peut-être la plus grosse inconnue de cette équation, une partie des experts légaux affirme déjà que le texte serait inconstitutionnel. Donald Trump ou l'État du Montana ont d'ailleurs déjà tenté de faire interdire TikTok avant de devoir reculer face au premier amendement de la Constitution qui protège la liberté d'expression de façon quasi absolue. Avec cette nouvelle loi, Céline, la stratégie est un peu différente. Mettre la balle dans le camp de Biden et leur forcer la main, mais c'est loin d'être gagné.
Merci Loïc Loury, correspondant de France Inter aux États-Unis. Il a tenu à s'adresser directement à Vladimir Poutine. Ici, personne n'a peur de vous, a dit tout à l'heure le président de la Lituanie. Gitanas Nauseda accuse le Kremlin d'avoir organisé
organisé l'agression d'un opposant russe hier dans la capitale lituanienne. Leonid Volkov avait été attaqué à l'aide d'un marteau devant son domicile. Il a dû être hospitalisé. Et ça inquiète évidemment les autres opposants russes qui ont trouvé refuge en Lituanie. Reportage de notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau.
Mikhail Maglov est arrivé en Lituanie il y a plus de 10 ans. Avant, il travaillait dans l'équipe de Boris Nemtsov. Aujourd'hui, il est journaliste d'investigation.
Les autorités comptaient sur la peur pour faire plier les opposants à Vladimir Poutine. Et elles n'ont rien pu faire. La peur n'a pas eu raison de l'horreur du meurtre. Nous avons compris qu'après le meurtre d'Alexei, une attaque contre quelqu'un se produirait.
Pour le renseignement lituanien, cela ne fait aucun doute. Le Kremlin est probablement derrière cette attaque. Son but, déstabiliser l'opposition avant les prochaines élections présidentielles en Russie. Pour le député européen Andrius Kubilius, interrogé par la radio publique, il n'est pas question pour la Lituanie de se détourner de ses opposants.
Le fait que l'opposition choisisse Vilnius comme lieu où habiter et travailler doit être important pour nous. Et nous ne pouvons atteindre notre but stratégique d'obtenir des changements en Russie et Biélorussie uniquement en les aidant. Mais il est évident que Poutine et Loukachenko luttent contre l'opposition.
Néanmoins, le défi est de taille, car en agissant ainsi, la Russie cherche aussi à déstabiliser la Lituanie. Le renseignement lituanien note cette tendance croissante depuis un an.
Marielle Vitureau à Vilnius pour France Inter. Un deuxième navire chargé d'aide humanitaire prêt à quitter Chypre pour Gaza, c'est ce que dit le gouvernement chypriote, alors qu'un premier navire est en route avec 200 tonnes de nourriture et de médicaments, mais la voie maritime ne permettra pas d'apporter toute l'aide nécessaire, relativisent les autorités du Hamas. Un centre de distribution de nourriture a par ailleurs été touché aujourd'hui par une frappe israélienne dans la ville de Rafah. Un employé de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a été tué.
France Travail, ex-Pôle emploi, victime d'une cyberattaque.
Oui, elle a été détectée cette semaine, mais elle date du mois de février. Et il y a un risque, dit l'opérateur, de divulgation de données personnelles. Cela concerne potentiellement 43 millions de personnes. France Travail a déposé plainte auprès des autorités judiciaires. On y revient en détail dans le prochain journal à 19h. Et puisque l'on parle du travail, on en vient à ce rapport très complet publié ce soir par l'INSEE et qui donne une photographie à l'instant T du marché du travail en France. Bonsoir Isabelle Souquet.
Bonsoir.
Avec un premier chiffre remarquable, il concerne la part d'emploi qui est à son plus haut niveau.
À son plus haut niveau, en effet, depuis que l'INSEE la mesure, 68,4% des 15-64 ans sont aujourd'hui au travail. Le salariat en contrat à durée indéterminée reste l'emploi majoritaire. Les trois quarts des travailleurs en font partie. Les contrats à durée déterminée reculent légèrement. CDD qui sont davantage l'apanage des plus jeunes. La proportion des travailleurs indépendants est en légère baisse, mais reste à un niveau élevé. Et c'est un domaine à majorité masculine. Les micro-entrepreneurs en représentent le quart. Et c'est ce secteur où les jeunes sont les plus représentés. Parmi les autres grandes tendances, la hausse du niveau moyen de formation avec une augmentation des emplois cadres, la stabilisation du temps partiel avec une présence trois fois plus importante des femmes que des hommes. On note aussi la place acquise par le télétravail, bien installé, avec au moins un jour par semaine pour près de 20% des travailleurs et jusqu'à trois jours pour 25% d'entre eux et surtout un taux de satisfaction record de 78%. Enfin, le sous-emploi, celui des personnes qui souhaiteraient travailler davantage, il continue de régresser et le chiffre du chômage qui lui se stabilise à 7,3% après 7 années consécutives à la baisse.
Merci Isabelle Souquet, Service Économie et Sociale de France Inter.
Il symbolise un siècle de bravoure française.
Oui, car il ne manque à jamais le rendez-vous du courage et de l'honneur, dit Emmanuel Macron dans son hommage à Philippe de Gaulle. C'était le fils du général, bien sûr, mais c'était aussi un marin, un amiral, un sénateur, rappelle le chef de l'État. Philippe de Gaulle avait 102 ans, il est mort la nuit dernière à l'Institut National des Invalides où il était pensionnaire. C'est là qu'un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine. Mais son nom reste lié à la commune de Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne, où se situe la demeure familiale des De Gaulle. Écoutez l'émotion de la gérante de cette maison, Aurore Jacquineau.
Je suis sincèrement très émue, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître. Et Philippe de Gaulle, à mes yeux, déjà c'était un héros, c'était un des derniers héros de la la Seconde Guerre mondiale. Donc en 2019, l'Assemblée nationale lui a enfin rendu hommage parce qu'il a libéré tout seul le palais de l'Assemblée nationale en août 1944. Et j'espère qu'il gardera cette image de héros. En tout cas, c'est l'image qu'il avait pour moi, qui a eu la chance de le connaître personnellement. Et ensuite, humainement, c'était quelqu'un qui était extrêmement gentil. Je crois pouvoir dire qu'on a appris ça avec beaucoup de tristesse. J'ai presque envie de dire, pour nous, il avait un côté un peu immortel, parce qu'il avait 102 ans, enfin, il avait traversé tellement de choses qu'on ne pensait pas qu'un jour ça arriverait.
Aurore Jacquinot, qui gère depuis 20 ans le site de la Boisserie à Colombey, les deux églises, au micro de Sarah Mansoura. C'est l'une des figures de l'escroquerie géante à la TVA sur le marché du carbone. Marco Mouly retourne en prison. Il s'est présenté au tribunal cet après-midi après la révocation partielle de son sursis. Ces derniers jours, cet escroc très médiatique avait laissé planer le doute sur une possible fuite. À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, un trentenaire a lui été présenté cet après-midi à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne à la fin du mois de janvier. Il vient d'avouer les faits, expliquant aux enquêteurs qu'il voulait vivre une histoire d'amour avec une autre femme. Mais cette dernière n'était pas vraiment celle qu'il croyait, Aurélien Tirard.
Oui, une femme rencontrée sur Internet avec qui cet homme, Nicolas, entretenait une relation passionnelle, à tel point qu'il a avoué préméditer le meurtre de sa compagne Alicia pour partir vivre avec cette autre femme. Mais voilà, derrière cette femme virtuelle se cachait en fait un escroc au sentiment. Basé en Afrique de l'Ouest, il a réussi à soutirer à Nicolas de l'argent. Dans un premier temps, Nicolas avait assuré avoir découvert le corps en sang de sa compagne après avoir fait des courses à la boulangerie. Lors de son appel aux gendarmes, il avait émis cette hypothèse, celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné, puisqu'une tirelire avait disparu du domicile, mais au fil de l'enquête, les agents de la section de recherche de Lille ont soulevé de nombreuses incohérences dans son récit. Confronté lors de sa garde à vue à cette pseudo-relation affective sur Internet, mobile du crime, le suspect a fini par avouer avoir tué Alicia avec qui il devait se marier pour concrétiser son idylle avec cette femme rencontrée sur Internet, une femme qu'il n'avait jamais vue.
Précision signée Aurélien Tirard.
Respirer des particules fines est nocif pour la santé, même sur une courte durée.
Oui, c'est ce que montre une étude de la revue The Lancet. Ces micro-particules sont émises dans l'atmosphère lorsqu'on brûle du carburant, du bois, des déchets agricoles. Et s'y exposer même quelques heures pendant un pic de pollution, par exemple, augmente les risques d'hospitalisation et de décès. Selon les chercheurs, 1 million de décès prématurés sont attribués chaque année dans le monde à une exposition à court terme aux particules fines.
Bonsoir Tony Renucci.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'association Respire. Le danger des particules fines, on le savait. Ce que nous apprend donc cette étude, c'est qu'une exposition de courte durée est tout aussi nocive, voire plus. Ça veut dire quoi, courte durée ?
Courte durée, c'est quelques heures à quelques jours. C'est comme ça qu'ils le définissent dans l'étude.
Quelques heures à quelques jours, par exemple, sous un pic de pollution, comme il y en a dans la ville de Paris, comme dans d'autres grandes villes. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ?
Oui, par exemple, quand on a un pic de pollution, parfois ça peut être sur une journée, ça peut être plusieurs jours, hein, on l'a vu d'ailleurs à Paris ou dans d'autres grandes villes en France. Et donc en fait, cette étude, elle confirme effectivement que déjà, il y a un danger avec les pics de pollution, mais elle confirme aussi surtout que l'exposition de courte durée aux particules fines est dangereuse pour la santé. Alors c'est pas qu'on en doutait avant, mais on manquait aussi finalement de littérature scientifique. Et cette étude nous amène des preuves supplémentaires pour dire que même de courte durée, quand on est exposé aux particules fines, c'est un danger pour la santé.
Mais alors du coup, si c'est tout aussi dangereux, effectivement, voire plus dangereux sur une période courte, qu'est-ce qu'on fait pour les alertes, par exemple ? Est-ce qu'on doit changer tous nos codes ? Est-ce qu'on devrait potentiellement même interdire de sortir littéralement un certain nombre de personnes pendant les pics de pollution ?
Déjà, la première chose, ce serait en France de modifier la réglementation sur les pics de pollution. Aujourd'hui, les pics de pollution, on surveille les pics de pollution aux particules PM10 et pas aux particules fines PM2.5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parfois, on passe à côté de certains pics de pollution parce qu'on n'est pas sur le bon référentiel. Et là, cette étude montre que pourtant, il y a des dangers supplémentaires pour la santé. Donc déjà, il faut réformer la procédure de gestion des pics de pollution en France. Mais et après, bien sûr, il faut réduire l'exposition. Vous avez raison. Et donc là, ça passe par des mesures sur la circulation différenciée ou les restrictions sur le chauffage au bois. Je rappelle que le chauffage au bois, c'est la première source d'émission de particules fines en France.
Mais il y a beaucoup de gens qui se chauffent au bois en France, encore, Tony Renucci ?
Eh bien, il y a encore beaucoup trop, malheureusement, qui se chauffent au bois. Par exemple, en Ile-de-France, c'est 800 000 ménages. Et ça reste la première source d'émission de particules fines. En Ile-de-France et en France d'ailleurs.
Et c'est une source de chauffage, on est d'accord, on parle de chauffage, on ne parle pas d'agrément, de cheminée ou de choses de ce genre-là.
Si, l'ensemble. tout ce qui est foyer ouvert ou même parfois foyer fermé, il y a quand même des émissions. C'est le chauffage au bois en général. Et malheureusement, là aussi, en France, on a des manquements par rapport à ça. On n'agit pas encore suffisamment sur cette source d'émissions-là. Et d'ailleurs, Respire réfléchit à mener bientôt une action judiciaire à ce niveau.
Vous avez dit un peu techniquement PM10 ou PM2.5. Ça veut dire en gros que on est capable aujourd'hui de mesurer les toutes petites particules qui sont d'autant plus dangereuses. En termes d'émissions, est-ce que on sait désormais que je sais pas moi, est-ce que c'est le bois justement qui les émet les plus petites? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce qu'on sait aujourd'hui d'où vient un danger qu'on ne voyait pas avant puisqu'on mesurait plus large, si je puis dire?
Oui, alors pour bien clarifier, on sait les mesurer, hein, les PM2.5, ouais. Mais par contre la réglementation sur les pics de pollution, c'est-à-dire les seuils de déclenchement, ne sont définis que sur les plus grosses particules PM10. Donc parfois on passe à côté de certains pics de pollution en particules fines. Donc on sait les mesurer, on connaît les sources d'émission, et sur les particules fines, la première source d'émission en France, c'est le chauffage au bois, et donc c'est sur ça qu'il faut qu'on agisse en priorité quand on parle de ce polluant-là. Et après, bien sûr, on a aussi les voitures qui en émettent, mais la première source, ça reste bien chauffage au bois.
Première source, chauffage au bois, est-ce que ça veut dire, alors pour les voitures, pour le coup, est-ce que ça nécessite d'accélérer l'interdiction des moteurs thermiques où vous vous dites non, en fait, c'est pas tellement la priorité ?
C'est pas que c'est pas la priorité, c'est que y a d'autres choses qui sont prioritaires. D'accord. Si on veut réduire les particules fines. Mais attention, la voiture, c'est aussi la première source d'émission de dioxyde d'azote. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs polluants, il y a plusieurs sources d'émissions. C'est un plan d'action global qu'il faut. C'est à la fois agir sur le chauffage au bois, c'est à la fois agir sur le moteur thermique aussi.
Chauffage au bois, moteur thermique, en tout cas, on a bien compris que les particules fines et ultra fines, même à courte durée, étaient dangereuses. C'est ce que vous nous dites, Tony Renucci, vous êtes le directeur de l'association Respire.
Dans l'actualité ce soir, il y a aussi ce choix difficile pour les sportifs français. Ils vont devoir désigner leur porte-drapeau pour les Jeux de Paris, 2 pour les Olympiques, 2 pour les Paralympiques. Alors, qui va avoir l'honneur de porter les couleurs de la France et de marcher en tête de la délégation? Pour la première fois, Guillaume Batin, il y a des critères très précis.
Être un Olympien ou un Paralympien, ne jamais avoir été porte-drapeau, avoir un casier judiciaire vierge, y compris de la justice sportive. Voilà les trois critères pour pouvoir candidater, ce qui exclut les plus grandes stars, Teddy Riner, Clarisse Agbenin ou Antoine Dupont et Kylian Mbappé. David Lapartient est le président du Comité National Olympique et Sportif Français.
Le sport français ne se résume pas non plus à simplement trois athlètes. Kylian Mbappé est jeune, il pourra peut-être être sélectionné à 2 Jeux Olympiques et donc incarner cela. Teddy et Clarisse ont déjà eu l'occasion d'être porte-drapeau et c'est aussi normal que d'autres veuillent peut-être l'incarner.
La grande nouveauté, c'est que le vote appartiendra aux athlètes, 562 Olympiques, 260 Paralympiques. Astrid Guyard est la coprésidente de la commission des athlètes au CNOSF.
On vient effectivement d'une ère où les porte-drapeaux étaient désignés directement par le président du CNOSF. Trop rarement les athlètes avaient voix au chapitre, trop rarement les athlètes étaient consultés. Ce qui est certain, c'est que ça laisse sa chance à tout le monde de pouvoir vivre cette expérience incroyable.
À partir du 1er avril, les candidatures seront présentées par les fédérations, un homme, une femme maximum, et le vote se déroulera par voie électronique le 8 juillet.
Guillaume Batin du service des sports de France Inter. Et puis eux pourraient remporter la médaille d'or du film le plus improbable de la semaine. L'écrivain Michel Houellebecq et l'humoriste Blanche Gardin sont à l'affiche du nouveau long métrage de Guillaume Niclou. Le réalisateur avait déjà travaillé à plusieurs reprises avec le romancier. Il récidive avec ce film intitulé « Dans la peau de Blanche Houellebecq », qu'on pourrait qualifier, Amélie Perrier, d'objet cinématographique non identifié.
Qu'est-ce qui relève de la fiction ou de la réalité? Houellebecq brouille les pistes à longueur de livre et nous interroge ici d'une autre manière, en acceptant avec Guillaume Niclou de jouer son personnage ectoplasmique, parfois mutique, ballotté entre un concours de sosie organisé en Guadeloupe,
on dirait Kurt Cobain qui s'est pas suicidé,
des scènes de beuverie au rhum local ou d'hallucinations stupéfiantes.
Pour l'instant, rien m'apparaît, il n'y a pas Dieu, il n'y a que
C'est le gène le plus puissant.
À ses côtés, Blanche Gardin, elle aussi dans son propre rôle, une autre manière de traîner son regard dépressif sur le monde et de bousculer Houellebecq.
Vous êtes un écrivain fabuleux, écrivez des livres et fermez vos
yeux. Niclou tourne en une seule prise, avec 4 caméras, pour capter des instants de vérité foutraque et spontanée. Le cinéaste se sert de la fiction pour fabriquer du documentaire et parle esclavage, appropriation culturelle, indépendance de la Guadeloupe, sans avoir l'air de faire un film politique. On y croise le réalisateur Gaspard Noé ou encore Francky Vincent reprenant la Marseillaise. Improbable, chaotique, mais drôle.
marchand de sang.
Si vous voulez faire votre propre avis, ça s'appelle donc Dans la peau de Blanche Houellebecq et c'est dans les salles depuis ce matin.
Céline Asselot pour le journal, merci beaucoup. Vous reviendrez, Céline, dans un gros quart d'heure pour Sous les radars, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
Et Sébastien Léas, grisaille matinale, les soleils voilés, voilà pour demain.
Oui, la journée de demain sera globalement bien ensoleillée, même si le ciel sera souvent drapé d'un voile de nuages élevés. Ce voile nuageux sera par moments bien épais, voire opaque, notamment le matin entre la Normandie et les Pays de la Loire, et entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et la vallée de la Garonne demain après-midi. En début de journée, des nuages bas et des brouillards retarderont l'arrivée du soleil et des éclaircies. Ces plaques de grisaille seront localisées pour la plupart, hormis entre la Lorraine, la Côte d'Or et le Lyonnais, où elles seront plus généralisées. Les plaines du Languedoc auront aussi un début de journée nuageux à cause d'entrées maritimes. Le soleil effacera ces grisailles plus ou moins rapidement pour s'imposer l'après-midi, mais quelques nuages bas persisteront entre le Narbonnais et la Camargue. En Bretagne, les quelques timides éclaircies qui réussiront à se dessiner seront de courte durée, puisqu'une perturbation va s'infiltrer. Les premières pluies aborderont le Finistère en fin de matinée pour se propager vers la Normandie et les Pays de la Loire avant la soirée.
Et température en hausse.
Oui, la douceur va s'accentuer. Demain après-midi, les maximales seront généralement 2 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, hormis autour de la Méditerranée, notamment sous les grisailles. Prévoyez 16 degrés à Lille et à Nîmes, 17 degrés à Paris, Marseille, Nancy et Ajaccio, 18 degrés pour Lyon, Strasbourg, Nantes et Perpignan. On attend 19 degrés à Cognac, 20 degrés à Bordeaux et Toulouse, 21 degrés pour Clermont-Ferrand et 22 degrés à Biarritz.
Sébastien Léas de Météo France, merci Sébastien. Vous reviendrez tout à l'heure après le journal de 19h.